En préambule, je voudrais préciser qu'on vit actuellement une période vraiment super intéressante autour de la réflexion sur l'économie du cinéma et sur la production, la diffusion du cinéma. Une période un peu clé, je pense, parce que la tribune de Maraval a permis de secouer un petit peu tout le monde et que des questions se posent qui se posaient auparavant mais qui n'étaient pas mises au jour. Donc, dans mon intervention, je pense que je peux aborder beaucoup de questions, je peux parler de beaucoup de choses. J'ai assez peu de réponses définitives sur les choses parce que je pense que le débat est super intéressant et qu'il aboutira dans les semaines, dans les mois ou dans les années à venir sur certainement une modification des modes de financement et d'exploitation du cinéma. En tout cas, peut-être qu'il n'aboutira à rien, mais la réflexion est intéressante et nourrit vraiment tout le monde et toute la profession, enfin toute la réflexion qu'on peut avoir autour de l'économie. Alors donc sur mon parcours, en fait j'ai fait un bac A3 cinéma, ça s'appelait A3 à l'époque, je sais pas comment ça s'appelle, ça s'appelait L3 j'imagine aujourd'hui, en province, et donc je suis venu à Saint-Charles.
De Rouen donc.
De Rouen, oui.
Parce qu'il y a des personnes de Rouen dans la salle
comme,
aussi.
Ah, d'accord. Et comme mon
Ah
ami
oui.
Thomas Verrague, que vous connaissez je crois également, qui vient du même endroit. Donc j'ai passé ce bac et ensuite je suis venu à Saint-Charles parce que c'était la seule fac qui permettait de faire de la pratique. C'est-à-dire qu'il y avait pas mal de matériel ici, du matériel qui paraît complètement obsolète aujourd'hui, puisque c'était des caméras Super 8 et des caméras, des V200, enfin les premières caméras vidéo qui n'étaient absolument pas professionnelles. Il y avait également une régie ici qui nous permettait de toucher à des instruments auxquels on ne pouvait pas toucher à cet âge-là, c'est-à-dire en arrivant à 18 ans à Paris, on avait peu accès à tout ce type de matériel. Donc j'ai fait mon DEUG, une licence de cinéma et une maîtrise sur l'économie du court-métrage, ce qui était un peu hors norme à l'époque ici, on est toujours dans une fac d'art plastique, on ne parlait pas trop d'argent.
T'as changé ça.
parallèlement à ça, à l'époque, mais ça vous devez le savoir, on ne pouvait tourner de films qu'en pellicule. Et donc le passage à l'acte était quelque chose de très compliqué puisqu'il fallait avoir les moyens de le faire et que ça coûtait très cher. Louer une caméra, payer le laboratoire, etc. C'était hors de prix pour des étudiants. Et donc on ne pouvait passer que par des aides de type aide régionale, il y en avait assez peu à l'époque, des aides du CNC, des chaînes de télévision qui intervenaient déjà un petit peu dans le court-métrage. Et donc, j'ai eu la chance à l'époque de me retrouver avec des étudiants qui obtenaient certaines de ces aides et donc de travailler assez rapidement sur des films. Sachant que, je précise aussi qu'on était 45 en DEUG et que les 45 voulaient être réalisateurs. Donc, je ne sais pas si c'est encore comme ça aujourd'hui, mais c'était quelque chose d'assez marquant. Sur les 45, je pense que personne n'est devenu finalement, mais en tout cas, c'était le désir de tout le monde. Et donc j'ai travaillé comme assistant, comme assistant de prod aussi à un moment donné, enfin, comme régisseur.
Comment ça se passe la fin de la une fois qu'on termine la fac, alors c'est quoi
Mais
les premiers petits boulots, les...
tout ça s'est fait en même temps en fait. C'est-à-dire que les courts-métrages, ça a été assez rapide. Il y a des gens de 19-20 ans qui avaient des aides et donc on commençait à travailler un peu tous ensemble sur des films. En fait, il se trouve qu'à l'époque, il y avait aussi quelque chose qui s'appelait le service militaire. Et n'ayant pas réussi à être réformé, j'ai été objecteur de conscience. Et à l'époque, on pouvait être objecteur de conscience dans des administrations publiques. Donc j'ai fait mon service militaire au CNC pendant 18 mois, 17 mois. Au service communication, ce qui était un endroit clé et vraiment passionnant, parce que du coup, on avait un journal interne à rédiger. Donc du coup, je me suis débrouillé pour aller rencontrer tous les services, parce que c'est moi qui devais le rédiger le journal, pour aller rencontrer tous les services qui m'intéressaient. Donc j'ai compris le COSIP, j'ai compris les aides sélectives, enfin, j'ai le RPCA, etc. J'ai compris un peu le fonctionnement d'une administration déjà, et puis ensuite du CNC en particulier, qui est quand même un endroit très particulier. Suite à ça, j'ai commencé à chercher du vrai travail. En fait, il se trouve que tous les gens qui sortaient du CNC à l'époque, soit des gens qui avaient travaillé au CNC pendant quelques années, soit les objecteurs ou les stagiaires, etc., trouvaient du boulot très vite en production. Donc je me suis fait embaucher dans une boîte de court-métrage qui s'appelait Stellaire Productions, qui n'existe plus aujourd'hui.
C'était une réputée dans le domaine du
Qui était une
court-métrage.
des plus grosses boîtes, ouais. C'est-à-dire qu'il avait quand il a arrêté, il avait un catalogue de 180 courts-métrages à peu près, et il a produit jusqu'à une vingtaine de films par an, ce qui était complètement délirant. Hein. Mais bon, moi, il m'avait embauché pour m'occuper particulièrement de distribution, de diffusion, etc. Et puis aussi avec l'idée que, comme je connaissais bien le CNC, j'allais pouvoir lui ouvrir des portes, ce qui n'était pas du tout le cas, évidemment, puisque les aides étaient sélectives devant des commissions et que le fait de connaître les gens de l'administration n'aide pas à passer le cap des commissions. Mais bon, ça, c'est un autre problème. Donc, je suis resté 18 mois dans cette boîte.
La vie est souvent, en fait, de malentendus.
Absolument.
Non, mais qui peuvent être positifs,
c'est bien. Oui, complètement. Et... après Stellaire Productions, j'ai eu le CNC pour réaliser un court-métrage, donc j'ai passé quelques mois à m'occuper de ça et à me rendre compte que décidément j'étais pas fait pour la réalisation. Et c'était, voilà, c'est aussi à ça que ça sert d'ailleurs le court-métrage, c'est à se tester et à voir si on a envie de continuer dans cette voie ou pas. Et ayant fait cette maîtrise sur l'économie du court-métrage, j'avais donc rencontré un grand nombre de producteurs, d'exploitants, de gens qui travaillaient dans le court-métrage, dans tous les domaines, même les premiers fonds régionaux, etc. Et du coup, j'ai pu suite à ça, j'ai commencé à imaginer pouvoir être producteur. J'ai rencontré, je pense, les bonnes personnes, enfin des amis avec qui ça me semblait possible et facile de monter une boîte. Et donc, on a monté cette boîte, cette première boîte qui s'appelait Château Rouge Productions, en 99. Donc, c'était 6 ans après ma sortie de la fac. En fait, ayant connu la production de courts-métrages de l'intérieur, en étant chez Stellaire, j'avais pris plein de mauvaises habitudes financières, mais j'avais aussi découvert ce que c'était que la production, et notamment quelque chose qui me semble clé, c'est qu'on ne peut pas faire vivre une boîte de production de court-métrage sans volume, ou en tout cas une boîte de production de films pauvres sans produire beaucoup. Donc on a réussi assez rapidement à produire 4, 5, 6 courts-métrages par an, à avoir pas mal de succès, on a eu des prix, ça tournait bien, il y a de l'argent qui rentrait, on rencontrait des réalisateurs formidables, on commençait à développer un petit peu des longs-métrages, on produisait en parallèle aussi des documentaires, plutôt des documentaires câbles, je ne sais pas si ça vous parle, mais si vous voulez, on peut en parler après. Et donc, la boîte fonctionnait plutôt pas trop mal, et on a produit une soixantaine de films au moment de la fin de Château Rouge Productions, c'est-à-dire que à force de faire de la cavalerie, film après film, on s'est endetté de façon vertigineuse. Et ce qu'on pouvait faire sur le court-métrage, c'est-à-dire qu'un endettement de 10 000 euros sur un court-métrage, ça peut éventuellement se rattraper en faisant un autre qui va bien marcher. On a fait la même chose en long-métrage, et là, ça ne se rattrape pas. C'est-à-dire que 100 000 euros de dette sur un long-métrage, c'est extrêmement compliqué à rattraper. On a été contraint de déposer le bilan. Il s'est passé autre chose en parallèle, c'est que sur un film que j'avais tourné, que j'avais produit en 2002, avec 75 000 euros de budget, la réalisatrice avec qui je m'étais fâché au moment de l'exploitation, alors que le film marchait très bien, mais bon, pour des raisons annexes, on s'était fâché, je ne voulais pas produire son film suivant, etc., m'a, 4 ans après la sortie de son film, attaqué au prud'homme, en me réclamant donc un rattrapage de salaire sur l'intégralité de la période de préparation de tournage et de post-production, sachant que comme elle n'avait pas de contrat de travail, vu qu'on faisait les choses des fois de façon un petit peu comme il ne faut pas, elle réclamait une requalification en CDI et donc des dommages et intérêts, etc. Donc elle a perdu au prud'homme très facilement, parce qu'elle touchait les assédics en même temps qu'elle tournait, donc les prud'hommes ont dit vous ne pouvez pas dire que vous n'étiez pas au courant, que vous n'aviez pas de salaire, mais en cours d'appel, c'est la loi qui s'applique, et donc pas de contrat de travail, pas de salaire, requalification. Donc elle a gagné 75 000 euros, et à ce moment-là, c'est aussi ce qui nous a convaincus à arrêter, parce qu'on n'avait pas les moyens de la payer de toute façon. Suite à ça, on a remonté une boîte avec mon associé principal de Château Rouge, qui s'appelle Cédric Walter, qui était ici aussi d'ailleurs, on s'était rencontrés ici. On a remonté une boîte qui s'appelait, ou qui s'appelle encore, Red Star Cinéma, avec laquelle on a poursuivi sur notre lancée, c'est-à-dire en produisant toujours pas mal de courts-métrages, un peu moins, et en continuant à développer des longs métrages. Alors on a eu un petit peu de chance rapidement parce qu'on a Pedro Costa qui nous a contactés, il cherchait un producteur. Donc on a produit le dernier film de Pedro Costa. Et puis ensuite, par des réseaux de connaissances, etc., on a également récupéré le projet de Virginie Despentes qui s'appelait Bye Bye Blondie et que nous avons donc produit. Il s'appelle encore Bye Bye Blondie. Donc après, la société a eu beaucoup de problèmes et moi, j'ai quitté la société il y a un peu plus d'un an, un peu avant la sortie du film, tout en ayant participé à la production du film et en ayant accompagné sa sortie.
Une première pause ici pour laisser la parole aux étudiants s'ils souhaitent poser des questions, parce que je sais que dans la salle, il y a des étudiants qui ont déjà leur propre structure de production, d'autres qui se destinent à être producteurs. Donc je ne sais pas s'ils veulent intervenir pour qu'il y ait un échange.
Peut-être que je peux donner un autre point avant l'intervention, oui. C'est que je me suis engagé au syndicat des producteurs indépendants, au SPI, très tôt, c'est-à-dire dès la création de la boîte en 1999. Et j'ai très vite été dans plein de groupes de travail au sein du syndicat et j'ai postulé ensuite pour être au bureau court-métrage et puis ensuite président du bureau. Et donc j'ai été très actif et très présent à un moment charnière, vers 2005-2006, où voyant que l'URSSAF allait finir par nous tomber dessus. Vous savez qu'il n'y avait pas de salaire, en gros, sur les courts-métrages avant 2005, et à partir de avant 2005-2006, et à partir de 2006, il y a eu une obligation, enfin, elle existait déjà, l'obligation, mais en tout cas, on a été obligé de respecter le droit du travail, c'est-à-dire le SMIC pour tout le monde, sur les tournages, etc. Ce moment a été vraiment super intéressant, parce qu'on a pu aller plaider notre cause auprès de toutes les institutions, le ministère, le CNC, et puis tous les acteurs du secteur. Et nous, on chiffrait le manque pour pouvoir payer les salaires sur les 400 courts-métrages qui se faisaient par an, qui passaient au visa, à 20 millions d'euros. On a réussi quand même à monter 7 millions d'euros en plus dans le court-métrage à ce moment-là, ce qui n'était pas 20, et donc ce qui pose des problèmes aujourd'hui, puisque aujourd'hui, on a vraiment dans le court-métrage, un système à deux vitesses avec des films qui ont le CNC, en gros, qui peuvent respecter le droit du travail, ou à peu près, et les films qui n'ont pas le CNC, qui sont complètement, qui continuent à être complètement hors la loi et à être des grands dangers pour les entrepreneurs, pour les gérants de sociétés, etc. Je pense que quand on est producteur, on est ouvert à tous les films, à tous les scénarios qui arrivent, même ceux qui sont déjà en partie financés, parce que c'est un accélérateur aussi, ça permet d'aller un petit peu plus vite. Après, il faut adhérer au projet. Ça, c'est indispensable. Moi, la première question, en gros, c'était pourquoi produire des courts-métrages ? Et je pense que moi, j'ai toujours voulu me dire je voulais produire des courts-métrages parce que c'était des films, sans forcément avoir de plan de carrière avec les réalisateurs. C'est-à-dire prendre les films un par un, scénario par scénario, aventure par aventure, et essayer de les mener à bien. Et souvent, quand c'est fait avec sincérité comme ça, il y a quelque chose qui marche. Même si le film ne marche pas, en tout cas, on peut être fier du travail qu'on a fait et puis voilà, si on a réussi à le financer. L'autre question, c'était sur comment on finance. Alors oui, au court-métrage, on est soumis aux mêmes règles qu'au long-métrage, un petit peu aménagées par le CNC. C'est-à-dire qu'on a une obligation de part privée, part publique de 50%. Donc si le CNC donne 100 000 euros, il faut trouver 100 000 euros de part privée. Sur les 100 000 euros de part
officiellement.
Parce
qu'il y a évidemment des films qui ne se font qu'avec...
Il n'y en a plus beaucoup. Il n'y en a plus beaucoup. Alors, en fait, le CNC a fait un petit aménagement qui est de dire, c'est pas 50-50, c'est pas 60-40 comme pour les premiers longs métrages ou les films à moins d'un million d'euros, qui sont considérés comme les films difficiles. Voilà. C'est 70-30. Sachant que dans les 30% de parts privées, on peut valoriser l'apport producteur, qui est les frais généraux, le salaire producteur, les frais généraux donc, qui sont de 7%, le salaire producteur qui est de 5%, ce qui est faux, hein, ça n'arrive jamais, mais bon, qui est de 5% plus charge ou moins charge. Enfin bon, on s'arrange avec ces chiffres-là sur le budget du film. Et là, ils viennent de passer des nouvelles règles que je n'ai pas en tête, que je ne connais pas encore bien, pour pouvoir valoriser d'autres choses en apport privé, notamment par exemple les apports des prestataires. Et ça veut dire qu'il faut, avec le prestataire, faire une facture élevée avec un avoir et que l'avoir soit considéré comme un apport, etc. Donc c'est tout un truc très compliqué à mettre en place, mais qui, qui permet de pouvoir faire les films. Par contre, faire les films avec uniquement le CNC, aujourd'hui, quand on a le CNC, c'est quasiment impossible. Jusqu'ici, le CNC considérait qu'un apport d'une collectivité territoriale pouvait être considéré comme un apport privé, ce qui est aberrant. Hein. Ils ont l'air de revenir là-dessus, donc je ne sais pas trop ce que ça va devenir à l'avenir. Sinon, le système de financement du court-métrage, il est le même depuis 20 ou 30 ans, c'est les aides publiques, donc CNC, collectivité territoriale, et puis quelques petites aides par-ci par-là, des aides au scénario, etc. Et puis les aides privées qui sont les préachats de chaînes, qu'on a fait revaloriser quand même de façon assez conséquente, qui représentent peut-être 150 films, j'ai pas les chiffres, je connais plus tous ces chiffres-là par cœur, mais je pense que c'est à peu près ça, c'est-à-dire vous avez quatre chaînes qui préachètent, c'est France 2, France 3, Canal+, et Arte. Et à des niveaux assez conséquents, hein, Canal+, c'est 40 000 euros pour 20 minutes, par exemple, ce qui n'est pas rien pour un court-métrage. Mais ça ne suffit pas pour l'ensemble de la production, ça c'est sûr.
Et est-ce qu'il y a des prix d'achat par MK2, par exemple, parce que j'ai déjà vu pas mal de...
Alors, il n'y a pas de prix d'achat de salles, de distributeurs, de vendeurs dans le court-métrage. Il n'y a pas de... Le marché n'est pas assez vivant pour permettre des préachats. Il n'y a pas assez de spectateurs qui payent, en gros. Il n'y a pas assez de gens qui payent pour venir voir des courts-métrages pour qu'on puisse s'autofinancer, en fait. Contrairement au long-métrage où ça existe, au court-métrage, ça n'existe pas du tout. Après, ça n'existe pas du tout, c'est pas vrai. C'est-à-dire que les bonnes années avec l'agence du court-métrage, je ne sais pas si vous savez ce que c'est le stock. En gros, du court-métrage, c'est-à-dire qu'on y centralise toutes les copies et il s'occupe de gérer toutes les locations de copies pour les salles de cinéma. Donc, il rentre un petit peu d'argent, il ne baisse pas les prix, c'est-à-dire qu'il y a des tarifs de location et donc il y a des retours. Mais moi, les meilleures années, je devais toucher 3 ou 4 000 euros de l'agence du court-métrage, ce qui était déjà bien. Ça ne permet pas de faire vivre une société ou même d'investir en production.
Est-ce que c'est quelque chose qui est inhérent à la production et qui sera toujours là, c'est-à-dire l'art de la débrouille et de pouvoir jouer avec les règles ?
Ça dépend de la force de la cellule de contrôle du CNC, je pense. Donc c'est quelque chose qui a été mis en place il y a 5 ou 6 ans. C'est l'ancienne chef de service du service juridique, je crois, qui est devenue contrôleuse assermentée au CNC et qui a donc accès aux comptabilités des sociétés, qui a une ligne directe avec l'URSSAF, etc. Et qui, dès qu'elle a un doute sur un film, sur une production, voilà, appelle directement l'URSSAF pour savoir est-ce que la personne a payé ses parts salariales, est-ce qu'il y a des échéanciers mis en place sur les parts patronales, est-ce que, etc. Enfin, tout le monde doit être aujourd'hui à jour sur ses cotisations sociales, ce qui n'était pas le cas avant. Hein. Sinon, il n'y a plus d'aide publique. C'est sûrement une bonne chose dans l'absolu, et en même temps, le choc a été rude pour pas mal de producteurs. On est dans une période où, en plus, le CNC est pratiquement tous les ans contrôlé par la Cour des comptes. La Cour des comptes voit tout ça d'un assez mauvais œil. Et pour ne pas se mettre en danger, le CNC a aussi besoin de faire des réels contrôles sur les sociétés, autant qu'ils peuvent le faire, parce qu'après, ils ne viennent pas dans les boîtes pour aller regarder les factures.
Comment ça se passe, la production du premier long-métrage ? Est-ce que c'est un cap important ?
Ah oui, en fait, c'est quelque chose qu'on a essayé de mettre en place très vite. C'est-à-dire, dès 2001, on a eu un premier projet de long-métrage qui ne s'est pas monté, parce que je pense, d'une part, parce qu'on ne savait pas faire, et ensuite parce qu'on n'a pas eu l'avance sur recette, et que sans l'avance sur recette, on ne trouvait pas de levier pour aller voir les distributeurs. Enfin, on essayait d'y aller, mais ils nous riaient au nez, on n'était pas crédibles. En 2003 ou 2004, je ne sais plus, on a obtenu l'avance sur recette du premier coup pour un premier long métrage, un film d'Aurélia Georges qui s'appelle « L'homme qui marche », et qui a été une super aventure, qui est un très beau film, à mon sens, mais qui a eu beaucoup de mal à se monter, notamment à cause d'un problème clé déjà de l'époque et encore aujourd'hui, qui est l'accès au financement du marché. Sur ce film, on a une Sofica qui est intervenue dans le marché, et c'est tout. Et sinon, à l'époque, on n'était pas soumis à la règle des 60-40. Et donc, on a pu mobiliser du crédit d'impôt. Et on a eu une aide de la région centre, ce qui fait qu'on avait un budget d'un peu moins d'1 million d'euros pour faire un film compliqué qui se tournait sur 7 semaines. Bon, c'était à Paris, mais c'était un film en partie d'époque, etc. Donc, c'était vraiment compliqué.
Donc, qu'est-ce qui fait qu'on décide comme producteur, c'est avant de se lancer? Est-ce qu'il y a on appelle la green light hein, aux États-Unis? Donc, est-ce qu'à un moment, on décide, voilà, on a suffisamment de moyens pour prendre le risque
de Il était absolument inimaginable pour nous d'avoir l'avance sur scène et de ne pas tourner. Donc, on a tourné alors qu'on n'avait pas les moyens de le faire. D'autant que la Sofica qui est intervenue sur le film, c'est une double Sofica, en fait, c'est Kofinova et Arte Kofinova. Et ils étaient très enthousiastes sur le scénario, et donc ils se sont engagés à mettre une grosse somme d'argent sur le film. Et il se trouve que 15 jours avant le tournage, ils ont considéré que nos engagements du marché, c'était Ad Vitam, le distributeur, et en vente, il n'y avait personne. Mais Ad Vitam s'engageait sans lettres chiffrées, donc s'engageait à distribuer le film, mais sans nous mettre de minimum garantie. Et du coup, pour Kofinova, c'était trop fragile, trop risqué. Et donc, ils ont baissé le rapport, je peux le dire, de 200 000 à 30 000 euros. Enfin, Kofinova s'est complètement retiré. Et c'est Arte Kofinova, c'est Michel Reillac. Il faut quand même donner quelque chose. Donc, ils ont donné 30 000 euros. Perdant 170 000 euros à 15 jours du tournage, on a baissé les salaires. On est passé en équipe ultra réduite sur 15 jours de tournage. Mais ultra réduite, ça veut dire quand même 15 personnes. Mais ça n'a pas suffi, et c'est sur ce film qu'on a pris 100 000 euros de dépassement, sans parler des frais généraux, évidemment, qu'on n'a pas pris. Donc c'était un risque inconsidéré, ou une mauvaise gestion. Mais en tout cas, c'est une discussion qu'on avait entre nous. Hein. Est-ce qu'on peut se permettre d'aller faire un film alors qu'on n'a pas les moyens de le faire? Et on était sûr que le film allait être génial et qu'on aurait un retour de recettes. Et bon, le film a fait 6 000 entrées et n'a pas été acheté par la télé par la suite, donc zéro, quoi. Voilà. Enfin, moins 100.
Et justement, est-ce que je ne veux pas faire de la psychanalyse à 2 euros, mais est-ce que pour être producteur, il faut avoir le plaisir de l'adrénaline, sans faire dans des conditions extrêmes, mais toujours avoir une part de risque qui est également une incitation à aller de l'avant?
Je connais des très bons producteurs qui savent gérer le risque bien mieux. C'est-à-dire qu'ils savent aussi que parfois il ne faut pas y aller, il ne faut pas le faire. Et moi, c'est un peu. Je travaille là-dessus en ce moment. Non, mais il faut. Enfin, voilà, c'est réellement. Ça met la société en danger et tous les gens qui sont autour, c'est-à-dire aussi le catalogue. Nous, on avait donc ce catalogue de 60 films qui a été ensuite vendu à la découpe à chaque auteur et puis à des boîtes qui ont récupéré quelques films, etc. Enfin, tout ça, c'est beaucoup de temps perdu et c'est dommage. Enfin, voilà. Après, en vrai, je pense que L'Homme qui marche, on aurait dû le faire pour l'argent qu'on avait. C'est-à-dire qu'on... Ayant un gap de 100 000 euros, on aurait dû ne pas dépenser ces 100 000 euros et réduire tout pour voilà. Mais à un moment donné, c'est aussi un engagement avec la réalisatrice. On a eu envie d'aller au bout comme ça, en se disant, on venait en plus d'obtenir, au moment où on a tourné le film, on venait d'obtenir l'avance sur recette pour un deuxième long métrage qui était censé être un film de marché. Et donc on y croyait beaucoup et on s'est dit ça compensera, au bout du compte ça compensera les pertes du premier. Il se trouve que le deuxième a fait le même nombre d'entrées, a eu le même budget et n'a pas dépassé par contre. Mais bon, voilà, il n'a pas rapporté d'argent.
Alors, une question là, mais avant de donner la parole, juste un autre complément, c'est est-ce que en tant que producteur, vous estimez devoir, entre guillemets, protéger le réalisateur de ses problèmes, par exemple 15 jours avant le début du tournage, enfin, le protéger entre guillemets, parce que forcément la réalisatrice, en l'occurrence, c'est au courant, puisqu'il faut diminuer l'équipe, les jours de tournage, mais est-ce qu'il y a quand même une part de...
Oui, bien sûr. Bon, on protège... Enfin, ça fait partie de la fonction d'accompagner le réalisateur ou l'auteur, enfin le réalisateur, et de le protéger au maximum des aléas de la production.
Pour qu'il puisse se concentrer sur son travail,
oui,
en fait.
Moi, je pense que le réalisateur, c'est certainement un des métiers les plus difficiles du secteur. C'est un métier où on fait un film tous les 2 ans, si tout va bien, où on se met à nu à chaque fois et on est le seul à assumer réellement l'échec artistique. Donc il faut protéger un petit peu son réalisateur pour pouvoir travailler après. Sur, euh, quand on est dans une situation comme celle-là, de toute façon, le réalisateur est impliqué. De toute façon, il doit réécrire un petit peu son scénario. Réécrire 15 jours avant, c'est une catastrophe. Hein. C'est quelque chose qu'il ne faudrait jamais faire. Mais quand on est contraint de le faire, on essaie de le faire au mieux, quoi. J'ai réalisé 3 courts-métrages avant d'être producteur et je pense que ça a été complètement déterminant dans ma manière de travailler. C'est-à-dire que j'ai toujours mis le réalisateur devant, avant toute chose, avant les questions budgétaires, ce qui fait qu'on dépassait, mais bon, qu'on équilibrait, etc. Mais en tout cas, essayer vraiment de l'accompagner pour que son film soit le film qu'il voulait faire, même si c'était raté. C'est-à-dire que je voulais aussi permettre au réalisateur de pouvoir rater un film pour éventuellement ne pas refaire la même chose la fois suivante. Sur les courts-métrages, on peut faire ça. Enfin, en tout cas, je le pensais. Je ne sais pas si je le pense encore exactement. Après, je pense, oui, c'est intéressant de s'intéresser. Enfin, j'ai l'impression que c'est bien de s'intéresser à la production quand on veut être réalisateur. Après, il faut pas... c'est bien de connaître, disons. C'est bien d'avoir une approche. Mais c'est quand même 2 métiers très différents. Le producteur a toujours plusieurs projets en même temps. C'est une des différences principales, souvent même trop. Et souvent, le réalisateur a l'impression d'être déconsidéré à côté des autres, etc. Enfin, il y a un rapport entre les réalisateurs au sein d'une même société qui est un peu difficile à gérer pour un producteur qui a trop de projets. Donc, c'est aussi une des fonctions du producteur d'arriver à mesurer ce qu'il est capable de faire en termes de volume de travail avec l'équipe qu'il a autour de lui, etc. Quoi.
On a très rapidement évoqué la question du documentaire, parce que là vous continuez à être sur les 3 terrains, c'est-à-dire court-métrage, long-métrage, documentaire, plus long-métrage. Est-ce que c'est important pour vous, par exemple, aujourd'hui encore, de continuer à découvrir de nouveaux talents par le court-métrage, pour éventuellement les accompagner sur un plus long ensuite ?
La question du genre s'est peu posée, c'est-à-dire que jusqu'ici pour moi. C'est-à-dire que un réalisateur qui m'intéressait pour un film qu'il avait réalisé, etc., s'il venait me voir avec un projet de documentaire, je l'accompagnais avec plaisir. C'est des méthodes de financement qui sont complètement différentes. Mais ça peut donner des films super intéressants. On a fait des longs métrages documentaires aussi qui ont eu une exploitation en festival, souvent plutôt, mais... Mais bon, je m'intéresse beaucoup aux documentaires. Après, j'aime beaucoup la fiction et en ce moment, j'essaye vraiment de me concentrer plutôt sur la fiction et plutôt sur la découverte de réalisateurs avec qui je vais avoir envie de faire des longs-métrages. C'est-à-dire que j'ai changé un petit peu de façon de travailler. Là, les courts-métrages que j'ai faits en janvier, c'est 2 réalisateurs avec qui j'espère pouvoir travailler sur des projets de longs dans l'avenir. La Mer à Boire Production. Production.
Programme.
Alors, j'en suis pas gérant et je ne suis pas associé encore. C'est-à-dire que là, pour l'instant, je travaille comme producteur avec mes projets au sein de cette société et je m'associerai à la société si ça se passe bien avec le gérant, en fait, qui est quelqu'un que j'aime beaucoup, que je connais depuis très longtemps. Mais bon, après, dans le travail, on ne sait jamais comment les choses peuvent se passer. Ça fait un peu moins d'un an qu'on travaille ensemble. J'attends qu'il y ait les premiers films qui sortent pour voir comment ça se passe, quoi. Quand Bye Bye Blondie arrive... dans nos mains, c'est par le biais du premier assistant réalisateur qui était sur L'Homme qui marche, qui est un ami proche de Virginie Despentes. Et elle était à l'époque, elle travaillait à l'époque avec une société de production avec qui elle ne s'entendait pas du tout. Et donc elle avait décidé de ne plus faire le film. Or, il y avait un engagement de Wild Bunch à hauteur de 600 000 euros sur le film. Il y avait l'avance sur recette et tout le monde trouvait ça un peu absurde de ne pas essayer d'aller plus loin. Pour des problèmes de relations qui étaient liés, je pense, au fait que le producteur, au départ, avait mis la barre très haut en disant « c'est un film qui se fera entre 6 et 8 millions ». Et quand il a fini par lui dire « on va avoir du mal à trouver plus de 3 millions », elle s'est dit « bon, ils sont nuls, je ne veux plus travailler avec eux, ça ne m'intéresse plus, tant pis, je ne fais pas ce film, j'en fais un autre, etc. » Donc elle est venue nous rencontrer et nous, on était enthousiasmés par le scénario, j'adorais le roman. Et donc nous, on lui a dit, on peut trouver entre 3 et 4 millions d'euros sur ce film. Et nous, on sait faire les films avec 3 ou 4 millions d'euros. On n'a pas forcément besoin de plus pour faire ce film. Il n'y a pas de chose...
Les actrices jouent le jeu aussi.
Oui, mais on s'était un peu renseigné quand même sur le niveau des cachets d'Emmanuel Béart et Béatrice Dalle à ce moment-là, qui est très bas. C'est-à-dire que d'abord, D'abord, globalement, les agents jouent le jeu des budgets. C'est-à-dire que Laurent Grégoire a jamais fait de surenchère en disant c'est Emmanuel Béart, il faut la payer 400 000 euros. Il a tout de suite accepté qu'elle soit payée assez bas, même si c'était quand même de l'argent. Hein, mais, voilà. Et Béatrice Dalle, enfin les deux d'ailleurs, n'ont pas fait d'entrée sur un film depuis des années. Donc sur le marché français, leur salaire ne vaut pas grand-chose. Et sur le marché international, Béatrice Dalle, personne ne la connaît. Emmanuel Béart, elle est très connue, mais elle est très connue pour ses films d'il y a 20 ans. Aujourd'hui, elle ne vaut pas grand-chose sur le marché. Voilà. C'est horrible de dire ça comme ça, mais voilà. C'est comme ça que tout le monde nous parlait. C'est comme ça que M6 aussi nous disait, par exemple, nous, on aime bien le scénario, on veut bien venir dessus, mais il faut changer les deux stars, enfin les deux vedettes, là, ça ne va pas avec... Avec Emmanuel Béart, Béatrice Dalle, on fera pas, enfin, vous ferez pas d'entrée et nous, on fera pas d'audience. Donc, ça ne vous intéresse pas, quoi. Voilà. Par contre, Canal, ça leur posait pas de problème. Quand on allait les voir, ils étaient tout de suite partants. Sachant aussi qu'il y avait Wild Bunch derrière, que Wild Bunch s'engageait en distribution si on trouvait personne d'autre. Ça a été un problème par la suite. Et donc, on a mis un peu moins de 6 mois, 8 mois à monter le financement. C'est-à-dire que sur des projets comme ce type de projet-là, ça va assez vite, en fait, finalement. Même s'il a fallu réunir énormément de... Je n'arriverai même pas à dire le nombre de partenaires qu'il y a sur le film, parce que je ne vais pas les retrouver tous. On a une copro en Belgique qui nous amène un peu plus d'1 million d'euros, avec du Tax Shelter, avec Wallimage, avec le... On s'appelle le CNC belge.
C'était dans la commission que vous avez...
C'est vrai?
Ouais.
Avec Cédric en face? Il y avait un oral? Non, c'était à Wallimage, l'oral. Ouais, d'accord. Et puis, on a eu un apport de la Suisse, qui était une copro... qui était une copro un peu particulière. C'est-à-dire qu'on a eu aussi le CNC suisse... plus des apports, je ne me souviens plus très bien, des apports un peu bizarres, des choses un peu bizarres à mettre dans un plan de financement, à présenter au CNC. La Suisse, ils sont extrêmement stricts et rigoureux sur les questions de rendu de compte, etc. Donc, on a travaillé avec Ruth Waldburger, qui est de Vegafilm. Et Jean-Yves Roubin, de Fracas Productions, en Belgique. Et donc, on a, en coproduction également, un fonds d'investissement qui s'appelle Garance Capital, qui est un jeune fonds qui est intervenu en fin de film parce qu'il nous manquait de l'argent et on s'est revus dans une fête et il m'a dit « mais nous, on adore des pentes ». Voilà, ils ont mis du cash, ce qui nous a permis de terminer le film, hein, sinon on aurait eu vraiment du mal. Et puis donc cet apport de Wild Bunch un peu... qui était de 650 000 euros, puis de 600 000 euros, puis de 400 000 euros. Également.
C'est courant ces échangements lors des apports comme...
Je ne sais pas, mais maintenant je me méfie.
D'un changement pour Wild Bunch, je parle de manière plus générale dans les chaînes de télé. Est-ce que parfois il y a des montants qui sont annoncés puis qui sont revus à la baisse ou...
Je ne l'ai pas vécu sur les chaînes, mais, ouais. Mais sinon j'ai l'impression que ça se fait, oui. J'ai l'impression que ça se fait. J'ai pas une grande habitude de marché, hein. C'est-à-dire que je ne suis pas un spécialiste des financements de marché. Mais en tout cas, à chaque fois que je me retrouve face à des privés, je vois qu'il y a le risque, tant que ce n'est pas signé, je vois qu'il y a le risque que ça baisse, quoi. En tout cas, maintenant, je vais faire vraiment attention. Et donc, ces 200 000 euros perdus, pareil, à 15 jours du tournage, ont été quelque chose qui nous a mis vraiment en danger. Bon, après, on est allé au bout du film. Le budget présenté à l'agrément était de 4,5 millions. Le réel, si je me souviens bien, était de 3,5 millions à ce moment-là, et on a dû finir en réel à 3,7 millions. Canal a mis beaucoup d'argent sur le film, ils ont mis 1 million d'euros sur le film. Et normalement, Canal met au maximum 25% de la part française. Donc nous, notre part française, elle est de 2,3 millions. Donc là, on n'est pas à 25. Canal plus Ciné plus, on est à 50% de la part française. Ensuite, personne ne nous a rien dit après coup. C'est-à-dire, on n'a pas réuni le budget qu'on voulait réunir non plus au départ. Mais voilà, bon, les choses se sont faites. Avec deux autres comédiennes, avec Pascal Grégory comme comédien masculin principal et Soko et Clara Ponceau comme jeunes comédiennes, qui jouaient Béatrice Dalle et Emmanuel Béart jeunes, pour ceux qui l'ont vu. Personne. personne. Une. Et le film n'a pas marché du tout. Par contre, il s'est très bien vendu à l'étranger.
Alors, il y a des rumeurs, je ne sais pas s'il faut parler des rumeurs ou pas, mais si sur ce qui s'est passé à Cannes, ou plutôt ce qui ne s'est pas passé à Cannes, que le film a été discuté à un certain moment pour la Casane.
Oui, alors oui. Non, le film a été, le film n'a pas du tout été discuté à la semaine. Wild Bunch croyait beaucoup en une séance spéciale, une séance de minuit, sur le côté sulfureux de Despentes, etc. Ce qui était sûrement une erreur, parce que le film c'est une comédie romantique lesbienne, avec de la musique punk, mais c'est quand même une comédie romantique, donc les comédies romantiques à Cannes, c'est quand même assez rare. Par contre, sur la Quinzaine, on nous a proposé l'ouverture, la clôture, une séance spéciale au milieu, enfin on nous a tout proposé, et la veille de la sélection, finalement, Frédéric Boyer s'est désengagé. Pour des raisons un peu troubles, de relations avec Wild Bunch. En fait, Maraval et Boyer se sont hurlés dessus la veille, parce que Maraval a retiré La guerre est déclarée de la Quinzaine pour le mettre à la semaine. Et Boyer n'a pas supporté, parce que c'était en fait toute sa sélection qui s'effondrait, puisqu'il savait que ce serait le hit de la sélection. Et du coup, il se retrouvait avec un film français phare en moins. Et du coup, ça a été la guerre entre eux pendant tout le Festival de Cannes.
Le titre était bien choisi.
Oui, absolument. Et par ailleurs, du coup, il n'y avait aucun film Wild Bunch à la Quinzaine cette année-là. Et nous étions un film Wild Bunch. Voilà. Mais je ne sais pas si c'est ça la raison. Après, on avait un espèce d'engagement et il y a eu un espèce de désengagement, ce qui est bon, toujours...
Alors, je parlais de ça parce que c'est il y a une transition peut-être maladroite, mais sur Maraval. Mmh. Est-ce qu'on peut, avant de parler de votre tribune, c'est que vous avez signé à plusieurs producteurs, d'abord voir quand la tribune de Maraval est parée en fin décembre dans Le Monde. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que Maraval a une stratégie? Pourquoi il fait ça? Est-ce que c'est uniquement parce que ce qu'il dit, il le pense sincèrement sans stratégie? Ou est-ce que... Voilà. Donc comment vous prenez la lecture de cette tribune?
Au départ, en tout cas, moi et puis quelques amis producteurs, on se dit enfin, quand la tribune de Maraval sort, on se dit enfin, quelqu'un dit quelque chose qui est flagrant dans le cinéma français, c'est que c'est trop cher. Enfin, par rapport aux possibilités de retour, par rapport à... Enfin, le système marche un peu sur la tête depuis quelques années, où il y a une inflation délirante du budget des films, notamment sur ce qu'on appelle les films du milieu, à mon avis, et sur les films au-dessus du milieu, c'est-à-dire il y a de plus en plus de films à plus de 10 millions d'euros, ce qui a quand même très très peu de chances de trouver une possibilité d'amortissement en salle, ou même à l'étranger. Et pour satisfaire... des chaînes de télé, et notamment les obligations que doivent remplir ces chaînes. C'est-à-dire que TF1 doit dépenser je ne sais plus combien de son chiffre d'affaires, 3 ou 2, 5 ou 3, oui, quelque chose comme ça, de son chiffre d'affaires dans le cinéma français. Et TF1, en 2011, est intervenu sur 17 films, je crois, avec des montants moyens de 3 millions d'euros par film. Bon, après, TF1, c'est TF1, ils ont une politique éditoriale particulière. Mais on m'a raconté l'autre jour un producteur qui avait un budget de 7 millions d'euros, TF1 enthousiasmé, veut s'engager sur le film, et TF1 dit par contre ce serait bien de passer à 9, parce que du coup nous on augmente d'autant l'apport de la chaîne, ça nous permet d'avoir moins de films à faire dans l'année. C'est-à-dire qu'il y a comme ça une régulation qui se fait sur les obligations, ce qui est un effet pervers des obligations. Donc la tribune de Maraval, elle a pour mérite de dire les films sont trop chers, et c'est notamment... Et bon, je pense que c'est une réalité, above the line, c'est-à-dire ce qui concerne les salaires des producteurs, des comédiens et des réalisateurs, qui explose et qui fait augmenter de façon délirante le budget des films. Parce que c'est vrai qu'en prenant Jean Dujardin, ou n'importe qui, à 1,5 million ou à 2 millions sur un film, et puis ça a des conséquences sur le reste, c'est-à-dire que tout le monde va être payé un petit peu plus, puisque lui il est payé très cher. L'équipe technique restera au tarif syndical ou au plus 20, ça se fait dans le milieu, mais par contre le producteur, le réalisateur, etc. vont être payés beaucoup plus cher. De manière schématique, globale, il y a des exceptions, etc. Enfin, bon, voilà. Donc la tribune, elle a eu ce mérite-là, et c'est après, en voyant les réactions...
Je peux parler plus fort, je pense qu'il y a des...
Ah, pardon, je suis désolé, j'ai pas beaucoup de voix, mais je vais essayer. C'est en voyant un petit peu les réactions ensuite du milieu, que j'ai pu, ou qu'on a pu en groupe se dire, bon, peut-être qu'en effet, la dénonciation nominative... des gens avec le montant de leur salaire en face, ce n'est pas forcément quelque chose de très sain. Il y a des aspects de la tribune de Maraval qu'on peut éventuellement rejeter. Mais en tout cas, globalement, il met le doigt sur quelque chose de très important.
Ce qui est certain, c'est qu'il y a eu, par exemple, le directeur de TF1 qui a réagi dans Le Figaro, un journal qui a réagi avec TF1, pour dire qu'il y avait... la solution, c'était d'enlever les obligations pour les chaînes de vestir dans... Et donc c'était à la suite de la tribune de Maraval.
Il y a une autre solution qui est de les renforcer.
Oui.
C'est-à-dire, ça c'est une des idées prônées par, en tout cas le petit groupe de producteurs que je représente ici, c'est de dire il faut mettre en place des clauses de diversité partout. Et aux chaînes de se débrouiller avec ça, de créer des cases, même si elles sont à minuit, même si elles sont à 2h du matin, mais en tout cas de créer des cases pour accueillir des films... à moins de 5 millions d'euros, à moins de 4 ou à moins de 3. Ou... Moi, je crois que c'est très important qu'on donne encore la possibilité à des producteurs et à des réalisateurs de produire et réaliser des documentaires qui ne sont pas destinés à du prime time Canal ou France 3, ou, etc. C'est-à-dire que ce COSIP sélectif ou COSIP automatique, c'est vrai qu'on peut y aller avec Normandie TV, avec Télésun ou avec des chaînes câblées qui vont, ou France 3, tous les France 3 régionaux, etc., avec des chaînes qui ne vont pas forcément amener de cash, mais qui vont diffuser les films et qui surtout permettent de déclencher l'accès au COSIP. C'est des petites sommes, ça fait vivre tout un tissu de réalisateurs, de producteurs et de techniciens. Et puis, c'est un moyen de se tester à moindre frais, puisque c'est des films qui ne coûtent pas très cher, qui sont complètement dans le circuit. Il y a quelques grandes réussites au FIPA tous les ans. Il y a des films reconnus qui ont été faits dans des conditions de COSIP.
On va revenir à la tribune. Donc je l'ai fait diffuser parmi vous. D'abord, est-ce qu'il y a des questions pour lancer le débat? Sinon, on va en parler. Enfin, vous posez des questions, mais est-ce que d'abord, parmi les étudiants, il y en a qui ont envie de réagir sur le texte, non pas tel qu'il est paru dans Le Monde, mais tel qu'il avait été écrit, puisque on va peut-être commencer par là.
Nous n'avons pas eu le final cut sur le texte. Apparemment, c'est très courant. C'est très courant dans la presse, mais le rédacteur ou le directeur de rédaction a réécrit une partie du texte, enfin pas a réécrit, a coupé une partie du texte, quitte à changer totalement le sens d'un paragraphe. C'est-à-dire que le départ, c'est des échanges sur Facebook, entre producteurs, de Facebook à Facebook. Et ensuite, en privé, en message privé, avec l'idée, il faut réagir, il faut faire quelque chose. Et donc, à deux, à trois, on a contacté tout un panel de producteurs amis qu'on considérait pouvoir réunir autour d'une tribune à rédiger. On était une quinzaine, puis une vingtaine à peu près. Et l'un de nous a rédigé une tribune flamboyante et très polémique, mais vraiment passionnante, qui était très longue et qui était indiffusable. Et notamment, il y avait au sein de la vingtaine de personnes des gens qui étaient très hostiles à certains points abordés, certains qui restent encore ici. C'est la raison pour laquelle on est passé de 20 à 12 ou 13. Signataires. Ensuite, il y a les signataires et puis après, il y a tout un tas de producteurs qui se sont ralliés à nous. Et là, on est une trentaine. On se réunit de temps en temps pour discuter un petit peu de tout ça et pour voir comment on peut continuer à essayer de mener des idées.
Est-ce qu'on peut dire quels sont les points qui ont, d'abord dans le groupe des 20 producteurs, posé problème pour certains d'entre eux?
Le point le plus polémique, c'est... C'est la phrase « La France a produit des dizaines de cinéastes qui ont eu une influence mondiale. On serait bien en peine de citer des cinéastes français d'aujourd'hui influençant de telle manière leur père à l'étranger. Certains producteurs liés à quelques cinéastes qui, pignon sur rue, étaient un peu choqués par cette idée, même si même si l'idée peut se défendre dans l'absolu de dire oui, Desplechin est un grand réalisateur, mais non, Desplechin n'influence pas un étudiant chinois, ou je me trompe, je ne le sais pas, mais il n'y a pas beaucoup de thèses qui se font dans le monde entier sur, sur Desplechin, Xavier Beauvois, en tout cas, on y, j'en entends pas parler. Donc c'était, voilà, l'idée c'était de dire ça, et certains producteurs étaient absolument contre cette idée.
Alors, sur cette première idée, il y a des étudiants d'origine étrangère dans la salle. Je pense à Dominique qui est d'origine allemande, je pense à vous qui est d'origine iranienne, je pense à vous qui est d'origine chinoise, justement. Donc, est-ce que vous avez, vous pouvez réagir déjà et nous dire si pour vous il y a des cinéastes français contemporains de la nouvelle génération, parce que vous citez René qui n'est pas mort, donc il est toujours en activité. Plus jeune que René et toujours en activité, qui influe ou pas aujourd'hui d'autres. D'autres cinémas qu'en France, oui.
Gaspard Noé.
Gaspard Noé.
Oui, oui. C'est une question qui s'est posée, oui. De dire, c'est éventuellement un cinéaste qui est en train d'émerger et éventuellement d'influencer les formes ailleurs qu'en France. Notamment, il est formidablement bien porté par Wild Bunch, qui le défend génialement, qui dépense des fortunes pour qu'il puisse faire ce qu'il veut. Je ne sais pas s'ils feront pareil sur le prochain, parce qu'ils ont perdu quand même vraiment beaucoup d'argent sur Enter the Void. Mais bon, éventuellement, oui, il y a Gaspard Noé.
La Pologne est parmi nous aussi.
Donc, c'est triste de vous dire que chez nous, en Pologne, pour l'instant, on connaît seulement deux réalisateurs français, c'est François Ozon et Luc Besson.
Mais après, on peut dire que Luc Besson a une influence certainement sur, sur des cinéastes dans le monde entier. Est-ce que c'est du même ordre que Truffaut ou que Piala, parce que la liste n'est pas complète, évidemment. Je ne suis pas sûr. Enfin, je ne sais pas si aujourd'hui on a des cinéastes qui émergent de cette manière-là. Et ça oblige à se poser des questions sur comment on produit et pourquoi on n'arrive pas à faire émerger ces cinéastes qui existent, qui sont là. Et...
En fait, votre thèse, c'est qu'il y a un lien entre... les moyens de production, les sources de financement et la possibilité pour un cinéaste d'émerger. Un cinéaste n'est pas tout seul, non. Il a besoin d'être dans un contexte qui permette à un talent, à son talent de s'exprimer.
On peut dire ça. Après, je n'ai pas de thèse. Oui. C'est-à-dire que j'ai absolument aucun avis définitif sur la question. Mais oui, en effet, c'est ce qui a motivé cette phrase. Cette question de la rentabilité des films, elle est terrible, en tout cas pour ceux qui produisent des films qui font peu d'entrées. C'est-à-dire qu'en effet, évidemment, un film, ça doit être vu sur la durée. La carrière d'un film, la vie économique et la vie artistique d'un film, ça s'évalue ça peut s'évaluer sur des dizaines d'années. Je ne donnerai pas d'exemple, ou alors La Règle du jeu, par exemple, qui est considérée comme quelque chose d'horrible en 1937 ou 1936, et qui est ensuite reconnu comme un des plus grands chefs-d'œuvre du cinéma français. Quoi.
39
Tous les éléments sont réunis aujourd'hui pour une nouvelle vague. C'est-à-dire que la nouvelle vague, ça part de personnes qui ont une envie de cinéma particulière, très référencée au cinéma américain, et puis des techniques qui évoluent, et de l'arrivée d'un son plus facile à prendre à l'extérieur, d'une pellicule plus sensible. C'est aussi ça qui permet d'aller tourner de façon plus libre, moins chère, etc. Et avec des producteurs qui avaient envie de ça aussi. Je pense que le producteur était beaucoup plus puissant à l'époque et qu'il était capable de lancer un film, même avec peu d'argent, mais de prendre vraiment des risques importants. Aujourd'hui, on a des nouvelles techniques qui arrivent qui font qu'on peut tourner des films à très petit budget, en étant très peu, et réussir à faire des longs métrages qui vont éventuellement sortir en salle ensuite. Il y a quelques exemples ces dernières années.
Et pourtant, il n'y a pas de divergence comme
tous les espoirs sont permis. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas une émergence claire d'un groupe de cinéastes ou de voilà.
Parce que ce que vous dites dans l'article, c'est on revient à la nouvelle vague parce que vous faites un parallèle avec les films dits de qualité française. Donc c'était la critique faite par les membres de la nouvelle vague qui étaient des films très académiques avec justement académiques dans la mise en scène, dans le scénario, avec un végétarien de l'époque. Et c'est là-dessus que j'aimerais qu'on poursuive la conversation. C'est le cinéma. dites-vous, est structurellement sous-financé et sous-diffusé. Vous parlez du cinéma émergent, du cinéma différent. Donc, est-ce que vous pouvez parler de ce sous-financement qui existe, de cette bipolarisation qui existe entre deux types de cinéma dans le financement par les chaînes de télévision et aussi par Canal+. Est-ce que Canal+ joue le jeu aujourd'hui ou pas, dans quelle proportion? Et puisqu'une grande partie du financement provient des chaînes, est-ce que c'est ça le premier problème qui se pose au cinéma français?
L'investissement des chaînes, il pose déjà un problème, à mon avis, super important en termes de création, qui est que pour pouvoir passer à la télé, il faut une certaine qualité de technique, une certaine qualité de casting, une certaine qualité de scénario, et qu'il y a un formatage des films qui n'est même pas exigé par la chaîne, hein, qui est appliqué directement, à mon avis, par les auteurs et par les producteurs. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on veut réussir à faire son film, et donc on rentre dans un cadre de scénario classique où les choses doivent arriver à tel moment, tel moment, tel moment. Et on a de moins en moins de projets qui sortent de ces chemins-là, à mon avis. Et je pense que c'est totalement lié au financement des chaînes. Et concernant Canal+, c'est terrible parce que Canal+, ils ont été très audacieux pendant des années. Alors il y avait beaucoup moins de films, c'est-à-dire qu'en 1994, il y avait 89 films d'initiative française. L'année dernière, il y en a eu 207, l'année d'avant. Et sur les 89, Canal+, était sur 80 films. Aujourd'hui, sur 207 films, Canal+, est sur 110 films. Donc le ratio est complètement différent. Et évidemment, Canal+ ne peut pas intervenir du coup sur le même volume de films d'auteurs et les diffuser de films d'auteurs entre guillemets et les diffuser à l'antenne. L'autre souci, c'est que aujourd'hui, de l'aveu même des équipes de Canal+, c'est l'antenne qui gouverne les achats. C'est-à-dire que il y a eu une rééditorialisation de la chaîne après l'affaire Vivendi, donc 2004-2005, enfin quelque chose comme ça, qui a plutôt bien fonctionné, c'est-à-dire que Canal+ était sur la pente descendante, perdait des abonnés, etc. Ils se sont tous rachetés les uns les autres. Mais aujourd'hui, ça marche très bien, Canal+. Enfin, pour l'instant, ça marche très bien. Donc l'antenne a un peu tout pouvoir, en disant on a réussi à mettre en place une éditorialisation qui fonctionne. Donc vos films à petit budget, vos premiers films, etc., on va les cantonner au mardi à 22h30. Et sur la case du mardi à 22h30, en 2013, il n'y aura pas plus de 4 à 6 premiers films. Donc c'est une case, c'est 52 cases par an. Et maintenant, on a une limitation du nombre de films, de premiers films qui pourraient être diffusés dans cette case. Ça veut dire que Canal+, on n'y a plus tellement accès, parce que sur ces 4 à 6 premiers films, il y a certains films qui seront amenés par des productions qui les vendront en vendant un autre, etc. Enfin bon, voilà, il y aura peu d'accès, en tout cas, pour les productions comme la mienne. Et donc, une de nos revendications, c'est de décrocher l'obligation de diffusion sur Canal+ Premium de Canal+ Cinéma, en disant, il faut peut-être, c'est une piste de réflexion, ouvrir des cases de diffusion sur Canal+ Cinéma direct sans être diffusé en premier sur Canal+ Premium. Ce qui permettrait d'ouvrir une vingtaine de cases. Apparemment, Canal+ n'est pas complètement hostile à cette idée, sachant que Canal+ Cinéma marche bien. Mais ce sera évidemment des budgets moindres. C'est-à-dire qu'ils investiront moins. Et voilà. Mais bon, c'est une piste de réflexion pour réussir à ramener un petit peu d'argent du marché dans des films difficiles à financer.
Il y a la question des chaînes, mais il y a la question de la salle aussi. Oui. Parce que là, je reviens en arrière, vous parlez de deux films que vous avez produits où il y avait eu 6 ou 7 000 spectateurs. Est-ce que c'est dû au film eux-mêmes, ou est-ce que c'est dû à la structuration du marché, ou est-ce qu'on ne saura jamais dans quelle part c'est des
films? Je ne saurai jamais.
Mais est-ce qu'il y a des choses à améliorer en tout cas? Parce que ça va plus dans le sens, la diversité en salle.
Les deux films étaient distribués par un distributeur formidable qui s'appelle Thomas Ordono, qui est signataire d'ailleurs de la Tribune, de Shellac. Mais Shellac n'a pas de moyens pour faire de la promotion, enfin, ou en tout cas des moyens très limités. Et, le film de Pedro Costa, on a fait 4000 entrées, c'était Shellac aussi, mais il n'y avait pas de 4 mètres par 3 mètres dans le métro pour dire que le film de Pedro Costa avec Jeanne Balibar sortait, et puis c'est normal en même temps. Enfin, en tout cas, il n'y avait pas d'emplacement stratégique Je suis pas sûr que quelqu'un soit venu mettre une affiche ici, etc. Enfin, il n'y avait pas de moyens pour pouvoir payer ces choses-là, quoi. Et quand on ne sait pas qu'un film sort, on va pas le voir. Enfin, quand on a peu de salles et qu'on ne sait pas qu'un film sort, on va pas le voir. Le problème, enfin, la question, elle est super intéressante parce que il y a aujourd'hui autant de, proportionnellement, il y a autant de fauteuils de cinéma aujourd'hui qu'il y a 20 ans. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de salles, il y a beaucoup plus de films, il y a autant de séances, proportionnellement, qu'il y a 20 ans. Donc, il y a de la place pour tous les films. C'est-à-dire qu'on pourrait diffuser tous les films d'une manière décente, qui leur permettrait de pouvoir éventuellement rester une semaine de plus. Bon, là, c'est de l'accès au marché direct, hein, c'est-à-dire que c'est le spectateur qui, s'il ne vient pas, s'il y a zéro spectateur pendant 5 jours, c'est évident qu'il ne faut pas garder le film, ça ne sert à rien. Enfin, oui, bon, disons, ou à une séance par jour, quoi. Mais dans l'absolu, il y a un problème de concentration des salles sur les mêmes films. Et on avait fait le compte il y a 15 jours, 5 films trustaient 30% des salles. Max, j'ai plus la liste en tête, mais c'est des films qui vont pas forcément marcher en plus. Mais en tout cas, sur des films sur lesquels le distributeur a mis tellement de moyens que les salles sont prêtes à y venir parce qu'elles se disent il y a tellement de promos que on aura au moins quelques spectateurs.
C'est
mécanique. Ouais. Oui, il y a un effet. Oui, d'ailleurs Max a plutôt bien marché au départ. Ouais. Alors c'est en ce moment il y a un gros chantier que je maîtrise pas trop qui s'appelle le chantier des engagements de programmation où les exploitants s'engagent sans coercition à voilà, c'est ça. S'engage à diffuser des films divers. Voilà. Ensuite, si à la fin de l'année ils ne l'ont pas fait, ils n'auront pas de contraintes financières. Et nous, on se dit qu'il faut plus donner de l'argent qu'en prendre. Enfin, c'est-à-dire se dire s'ils diffusent tel film, il peut y avoir des bonus. Le moins de bâtons possible. Et
plus de carottes.
Après, bon, il n'y a pas de l'argent, il n'y a pas tant d'argent que ça, mais il y en a quand même un petit peu. Et dire ce qui est le fonctionnement des salles arrêt essai et des salles recherche. Hein. C'est-à-dire que si elles diffusent un certain nombre de films classés arrêt essai ou classés recherche dans l'année, elles vont avoir des bonus financiers. Ce serait donc éventuellement de se dire il faut augmenter ces bonus. Pareil pour les films d'avance sur recette, qui sont de plus en plus difficiles à financer. Se dire peut-être qu'il faut inciter le distributeur financièrement à s'engager sur des projets qu'il peut aimer sur le papier, mais en se disant, en même temps, c'est un film d'avance sur recette, donc il sera mal financé, donc il sera peut-être raté. Donc, enfin, il y a un effet boule de neige mécanique un peu terrifiant, parce que c'est vrai qu'on a accès à de moins en moins de guichets, en fait, sur des films qui, pourtant, ont eu l'avance qui... Pas rien, hein, avoir l'avance sur recette, c'est difficile.
Alors, suite à cette tribune, vous vous êtes revus depuis. Mmh. Vous nous avez dit que le groupe s'était agrandi. Oui. Donc, quels sont les chantiers, s'il y avait quelques points à mettre en avant, les priorités et surtout, si on veut être concret et constructif, sur quel point on pourrait espérer avoir des résultats à court ou moyen terme. Il y avait une question de Delphine. Est-ce que les retours vont dans les deux sens ? Est-ce qu'il y a des retours hostiles aussi ?
On a eu des retours hostiles de producteurs. On a eu, dans le secteur de la production, disons, on a eu plutôt des retours assez sympathiques, de gens qui étaient plutôt d'accord. Mais bon, dans un cercle assez précis, de gens qui se connaissent, etc. Voilà. On a eu des retours plutôt assez bons des auteurs également. Des auteurs-réalisateurs.
Antoine Desrosières.
Tout Antoine Desrosières, oui.
Certains parmi les étudiants ici présents l'ont eu comme enseignant.
D'accord. Pas tous.
Pas tous.
D'accord. Non, on a des retours plutôt bons, mais on en attend encore. On a eu aussi quelques retours hostiles, mais en fait, pas tellement Si chez certains techniciens, il y a une phrase un peu polémique aussi. Cette attitude n'est pas le simple fait de producteurs, c'est également le cas d'un petit nombre de comédiens, de cinéastes et de techniciens. Les techniciens n'aiment pas du tout qu'on dise qu'ils s'accrochent à la situation parce qu'elle leur convient et qu'ils veulent que rien ne change. Voilà. Ce qui est le cas de tout le monde peut-être.
Oui, c'est un autre débat, on n'a pas du tout abordé jusqu'ici.
Mais j'allais en parler, en fait, de la convention collective, parce qu'en fait, c'est le débat le plus chaud du moment. Donc c'est un peu la chose dont on parle en pauvre, hein. Principalement quand on se réunit, c'est cette convention. Alors, vous savez ce que c'est qu'une convention collective, j'imagine. Vous avez entendu parler de la convention collective API, signée en janvier 2012 par donc, l'API. L'API, c'est l'association des producteurs indépendants. Donc c'est Gaumont, Pathé, MK2 et UGC.
Tout dépend ce qu'on appelle
indépendant. Voilà, tout le monde est indépendant, en fait, dans ce secteur. Donc, signé par l'API, la CGT et le SNTPCT. Le SNTPCT étant le syndicat qui réunit les techniciens les plus âgés du secteur et qui, depuis longtemps, milite pour qu'il y ait moins d'écoles de cinéma, etc., parce que ça forme des gens qui arrivent sur le terrain et qui viennent prendre les places. Mais c'est un vrai problème en même temps. Hein. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est difficile de travailler après 55-60 ans dans le cinéma. Enfin, voilà. Partout, oui, partout. C'est vrai. C'est vrai. Donc il y a eu cette convention collective API qui est super intéressante parce qu'elle résout plein de questions sur les pratiques sociales, sur les tournages, et c'est quelque chose d'absolument nécessaire. Et moi, je milite pour qu'il y ait une convention collective, mais je milite aussi pour qu'elle soit applicable. Et le niveau des salaires dans la convention API est absolument délirant, c'est-à-dire que il ne sera applicable par personne. Par personne en dessous d'un certain niveau de budget. Et ce niveau...
Par exemple, on peut dire un exemple de salaire, par exemple, à la semaine, sur un poste...
Après, le chef-op, il a toujours été bien payé, mais là, il est payé 2007 ou 2008 par semaine. Si on rapporte ça au salaire d'un chirurgien en fin de carrière, c'est assez vertigineux. Après, il ne travaille pas toute l'année. Mais après, il a 2000 euros d'ACEDIC par mois aussi. Enfin, voilà. Bon. Je sais pas, c'est super polémique hein, comme sujet. Donc, le SPI, l'APC, l'UPF et... C'est tout ? Non. Et la FPF ont fait une proposition de convention alternative qui reste très chère, qui a été signée par ces quatre syndicats plus la CFDT et FO devrait s'y rallier dans les semaines à venir. Et c'est une convention qui a des niveaux de rémunération qui sont très élevés aussi, mais avec des différents paliers. Un palier à moins d'1,5 million, ça on peut en reparler, un palier de 1,5 million à 3 millions, et un palier de 3 millions à 4 millions, et un palier à plus de 4 millions de budget. Le budget CNC, hein.
Le budget d'agrément. Le taille de salaire ne serait pas le même selon le budget du film.
Voilà, c'est ça. Avec aussi l'idée que ce sont plus... Parce qu'aujourd'hui, quand on fait un film à moins 30, à moins 30% du tarif syndical négocié en 1950, quand on fait un film à moins 30, tout le monde est à moins 30. Alors que dans la proposition de convention alternative, le salaire de l'habilleuse, qui est le salaire le moins élevé du cinéma, reste à 100%. Et par contre, le salaire du chef-op baisse de 60%. Ce qui fait un lissage un petit peu des salaires pour permettre de pouvoir faire des films. Mais faire des films à moins d'1 million d'euros avec ces conventions, avec les deux conventions, ça restera quelque chose de très compliqué. Notamment à cause de tout ce qui est majoration pour heures supplémentaires et heures de nuit. C'est normal d'être mieux payé quand on travaille au-delà de la durée légale du travail, etc. Mais la proposition de l'API est de payer plus 100 pour chaque heure de nuit.
Plus 100.
Plus 100%. Donc c'est plus 2700 euros par semaine pour le chef-op, c'est 5400, par exemple. Et la proposition du SPI, etc., est de payer à plus 30 ou quelque chose comme ça. Voilà. Ce qui permet, parce qu'un film qui se passe de nuit, du coup, soit il faudra le tourner deux jours en fermant les rideaux, soit il ne faudra pas le faire. Parce que c'est... Ou alors, il faudra demander des financements complémentaires. On ira voir Canal en disant « Mais mon film est très cher parce qu'il se passe de nuit. » Voilà. Ça va être une nouvelle donnée de chiffrage pour les chaînes. Mais bon. Voilà, alors sur la convention collective, aujourd'hui, donc il y a deux conventions signées. Le ministère du Travail a refusé d'étendre la convention API en janvier. Il y a une nouvelle réunion qui est mise en place en avril, donc on verra ce qui se passe dans l'année, mais a priori, on va repartir sur des nouvelles négociations. Ça va encore durer un temps infini, et ce n'est pas une très bonne idée, parce qu'il faut aussi assainir les relations entre les employeurs et les salariés sur les tournages, c'est certain. Enfin, il faut trouver une solution, parce que ça se durcit un peu quand même sur les films.
Alors, ça nous emmène aussi à la question de la transparence, parce que c'était le grand cheval de bataille, justement, de... J'ai Azavanicius et de Pascal Regard qui a suivi le mouvement, donc qui partait lui de ce que disait Maraval, qu'on va dire qu'il faudrait, pour que les salaires baissent, là on parle des salaires des acteurs, qui sont des salaires très élevés de certains acteurs, qu'ils puissent avoir un intérêt sur les recettes du film, mais que les recettes du film aient une transparence sur les retours financiers.
Oui, ben ça c'est un chantier, je ne sais pas comment aborder la question, parce que moi je pense que c'est la clé, il faut que tout le monde soit transparent, les producteurs, les distributeurs et toutes les institutions, à tous les niveaux, il faut, enfin, ça paraît assez logique. Ça voudrait dire également aller au CNC en disant maintenant on ne vous donne plus des budgets d'agrément surgonflés, mais on va vous dire la réalité. Or, ça a des effets pervers qui sont le financement de Canal, du coup, va être réduit parce que ce ne sera plus 25% de 2 millions et 25% de 1,5 million. Enfin voilà, ça a un effet boule de neige qui fait qu'on ne sait pas comment aborder la question. Mais il faut de la transparence sur le salaire des producteurs. Il faut trouver un moyen de publier les budgets des films, à mon avis. Mais il faut aussi qu'il y ait de la transparence sur les accords entre la SACD et les opérateurs à Dailymotion, etc. Enfin voilà, il faut qu'elle soit partout, la transparence. Vous pourrez en parler à Pascal Regard.
Une question pour vous
revenir. Et puis la transparence chez les distributeurs, c'est-à-dire que je pense que chez les vendeurs, c'est tellement facile d'aller contrôler un contrat qu'il n'y a pas trop de problèmes de transparence. Chez les distributeurs, les frais qui sont opposés par le vendeur sont dans le contrat dès le départ. Avec le distributeur, c'est plus compliqué d'arriver à avoir accès aux recettes réelles et aux dépenses réelles. Sachant que, évidemment, ça coûte beaucoup d'argent, mais moi, j'ai jamais vu d'argent remonter d'un distributeur vers un producteur à titre personnel. Après, ça arrive, hein, bien sûr, mais que sur des succès, quoi.
On va tout doucement arriver vers la fin de notre dialogue, mais il y a la place aux questions encore, bien sûr. Oui.
Là, on parle de transport, de budget, tout ça, de baisser les salaires, mais... Vous n'avez pas évoqué tout ce qui était le côté commercial, marketing, où là justement, on voit la création d'événements autour d'un film, tout ça, qui est milliers de milliers sur des français, alors que c'est un aboutissant, quoi. C'est pas. Enfin, c'est dégradant, je trouve, des fois, c'est limite. Et là les primaires sont déversés.
C'était un peu l'idée en parlant du distributeur, puisque c'est en général le distributeur qui met en place. La question marketing, l'aspect marketing des choses. Et je pense pas qu'ils dépensent de l'argent pour le perdre. Je pense que sûrement, je vois pas à quels événements vous voulez faire allusion, mais en effet, il y a une surenchère de dépenses sur les sorties de films, mais il faut exister dans un secteur ultra concurrentiel avec plein de films qui sortent toutes les semaines. Et pour exister, une des seules façons, c'est de dépenser beaucoup d'argent en promo. Des fois, n'importe où, oui, c'est vrai. Et puis cet argent est opposé ensuite aux producteurs sur les recettes du film, et du coup, il n'y a pas de recettes qui remontent à cause d'un événement idiot qui peut avoir lieu pas si par là.
On a d'autres questions, on commence par vous.
Juste une remarque, j'ai l'impression que tout le monde investit tellement d'argent pour la promotion que de nouveau, on est dans un bain où rien attire vraiment l'œil, parce que ça se...
Ça s'annule.
Oui, ça se remet de nouveau à un même niveau, en fait, que rien n'est vraiment remarqué réellement. Moi, par exemple, les affiches dans le métro, je ne les regarde même plus, parce qu'il y en a tellement. Donc peut-être que justement ça sert à rien finalement. Je sais
pas. C'est un système.
Oui, c'est un système qui quelque part se déface lui-même. C'est bien sûr beaucoup d'argent. On va attirer des gens, puis il y en a tout le monde de fait. Ça n'attire plus personne.
Quand on voit quasiment deux mois ou deux mois et demi avant la sortie du film, une affiche avec Bakri et Jaoui comme leur grand retour. Enfin, moi je l'ai vu, par exemple. Mmh.
Là, je pense que c'est Memento qui sort et je pense qu'ils risquent gros dans l'affaire et qu'ils ont voulu mettre le paquet.
Ça coûte
très cher. C'est de l'ordre de 50 000 euros, une campagne d'affichage comme ça, juste dans le métro, en les affiches derrière les trucs brillants, enfin éclairés, là, etc. C'est très cher. Ils l'ont fait il y a deux mois, et en même temps, ils ont peut-être eu raison, parce qu'aujourd'hui, par contre, il y en a partout. Hein, j'ai vu qu'il y avait des Bakri Jaoui, il sort la semaine prochaine, un truc comme ça. Mais en même temps, je pense que le film leur a coûté très cher, et du coup, ils ont absolument besoin que tout le monde sache que ça sort.
Moi, la question que j'ai, c'est qu'on vient de finir hier des conférences sur l'économie du cinéma, qui au final dit un seul truc, c'est que l'économie du cinéma, c'est Internet, crowdfunding, transmédia, etc. Donc c'était pour savoir, vous, quelle était, quand vous dites, voilà, la communication, tout ça. Aujourd'hui, je pense sincèrement que c'est plus visible, un bon groupe qui publie sur sa page quelque chose, ce sera sûrement plus visible, au niveau, je parle de personnes physiques, hein, que toutes les affiches de Jaoui Bakri. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est tellement énorme.
Mais je pense qu'ils font les deux.
Ils font évidemment les deux. Et ce que je veux dire, c'est que quelle est votre position par rapport à Internet dans ce qui peut amener à la production, crowdfunding.
Bah là, on parle de marketing.
Mais même alors, juste dans la production avec le crowdfunding.
Je ne crois pas une seconde à cette solution.
C'est quelque chose pour vous qui est...
Pour moi, c'est une façon d'aller taper de l'argent à sa famille, mais...
Oui, d'un côté, ça marche comme ça. Et donc, pour vous, c'est pas une source qui pourrait venir, je parle pour les petits producteurs ou les petits groupes qui cherchent à avoir 5 000, 10 000 euros pour se lancer.
Mais, qu'est-ce qu'on fait avec 5 000, 10 000 euros enfin...
Personnellement, moi, j'ai une petite association, je peux faire beaucoup de choses avec 5 000 euros. À terme, évidemment, avec un groupe, avec des gens qui ne seront pas payés que ça. Donc c'est aussi un moyen de créer quelque chose et d'arriver, comme on peut voir avec Rengen, qui est un film qui au final, équipe, ne vaut rien. Il a loué une caméra et au final, c'est quelque chose qui a eu un grand retentissement. Donc avec peu d'argent...
Donc vous êtes dubitatif sur tout ce qui est financement par Internet, en fait.
Absolument.
D'accord. C'est quelque chose qui est partagé par l'ensemble des personnes signataires. Vous en parlez entre vous ou...
Non, on n'en parle pas du tout. non, mais je pense que certains ont essayé certainement de passer par là, mais moi j'y crois pas. Je pense que ça s'essoufflera, mais peut-être je me trompe. Mais je pense que ce sera difficile d'aller deux fois demander de l'argent à ses parents pour via un site de comme Touscoprod et tout ça. Enfin, j'y crois pas beaucoup.
Je propose que toutes les questions soient posées, que vous essayez de faire comme le général de Gaulle, il y avait répondre globalement parce que nous
parlons. J'y arriverai pas.
Donc il y avait Anthony.
Moi en fait ça n'a absolument rien à voir. J'avais l'impression que l'affaire Maravane, en fait, ça cachait quelque chose d'autre. C'est-à-dire le problème du scénario en France. C'est-à-dire que j'ai l'impression en France qu'il y a plein de films qui partent en tournage avec des scénarios qui sont bâclés. Ou alors avec des scénarios qui sont faits uniquement pour satisfaire le public du Café de Beaubourg. Et après, on s'étonne que ça ne soit pas fait. Maraval, il sait qu'il y avait un problème de rentabilité, mais c'est une rentabilité immédiate, sale. Et moi, par exemple, quand on voit des films comme L'Arnaqueur, bon, c'est pas un scénario exceptionnel, mais au moins il est bien structuré, il est bien fait. Et je pense qu'il y a plein de gens qui pensent ça. Ben voilà, c'est un film à 14 millions, mais qui fait 3,5 millions d'entrées.
Je pense que 100% des téléfilms. Ont des scénarios super bien écrits et bien structurés, etc. Ça n'empêche qu'il n'y a pas forcément derrière la puissance d'un cinéaste. Moi, je pense que c'est le cinéaste qui fait le film, c'est pas le scénario, et on fait un très bon film avec un mauvais scénario. Il faut avoir des arguments hors scénario. C'est-à-dire qu'en effet, c'est être conseillé par quelqu'un, c'est avoir un début de casting, avoir un début de financement. Enfin, pour la première collaboration, Je sais que c'est un gros problème auquel je me suis confronté moi aussi il y a 20 ans. C'est très compliqué, oui. Il ne faut pas produire trop de films en même temps, sinon on fait tout mal. Au-delà de 5 ou 6 projets à faire dans l'année, disons. C'est très difficile d'arriver à libérer du temps, quoi. Donc après, moi, je lis des scénarios tout le temps. Même si j'en ai pas fait, ça m'empêche pas de les lire. Et puis d'essayer. J'avais arrêté, mais je recommence à faire partie de commission là, parce que c'est aussi un moyen de sentir l'air du temps, de sentir ce que les gens ont envie de voir, ce que les gens ont envie de faire.
En tout cas, moi, je voudrais vraiment remercier Sébastien de Fonseca d'être venu parmi nous, parce que je pense qu'il y a une qualité qu'on peut tous reconnaître, c'est la clarté et le fait de parler sans double discours, parce que c'est quand même l'écueil qui guette pas mal de personnes dans ce milieu, et vous parlez en tout cas en disant ce que vous pensez, ce qui est déjà un grand atout.
La clarté, je suis pas sûr, mais la transparence, ça c'est sûr.
Un grand merci en tout cas d'être venu.
Merci à vous.